Ah, nous allons prier le Seigneur, remettant ce culte entre les mains de Jésus. Déjà, il le tient, tout ça, c'est entre ses mains, mais c'est bien que nous le fassions, que nous consciemment nous agissions ainsi. Seigneur, je te remercie pour ta présence avec nous chaque instant, chaque jour. Merci Seigneur de ce moment que nous mettons à part pour venir écouter ta parole, pour te louer aussi avec nos mots. Nous te remercions Seigneur parce que nous y mettons tout notre cœur. Et je te prie, Seigneur Jésus, que ce matin, tu nous aides à bien comprendre les choses qui vont être dites afin que nous puissions progresser, afin que nous puissions atteindre cette stature parfaite que tu veux que nous atteignions. Merci, Seigneur Jésus, de nous y aider ce matin encore. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Amen. Amen. Tout le monde va bien ce matin? Moi aussi, moi aussi. Référence à Victor et Victoria. Comprennent ceux qui ont des oreilles. Notre frère Nicolas est en train de prêcher au Togo. Il est en train de préparer mes prédications là-bas. Il m'a téléphoné. Il est tout content. Ensuite, il va, je crois, au Ghana. C'est un grand voyageur devant l'Éternel. Hein. Nicolas Savadogo. Il vous salue bien. Il m'a dit de bien vous saluer, bien vous embrasser. Alors voilà, c'est fait. Je vais lire pour vous et avec vous le logion numéro 107. De nouveau, on va revenir parce qu'il y a tellement eu de questions sur ce logion. On est content de revoir Jean et Richie hein, avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Ça fait drôle hein, quand on n'a pas de batterie. C'est pas bien. Alors, Jésus dit, « Le royaume est comparable à un berger qui avait 100 moutons. L'un d'entre eux, le plus gros, disparut. Il laissa les 99, il chercha l'un, jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé. Après l'épreuve, il dit au mouton, « Je te veux plus que les 99. » Vous avez vu, entre les versions, ça change déjà un peu. Hein. Vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle que cet évangile de Thomas a été trouvé dans les années 40 et que beaucoup de chrétiens n'aiment pas beaucoup ce texte. En fait, il a été interdit au concile de Carthage, je crois, en 397, ou au concile de Nicée en 325, je ne sais plus, parce que c'était l'évangile dont se servaient le plus les gnostiques. Mais c'est l'évangile qui a été écrit en premier, avant 55. C'est-à-dire 55 après Jésus-Christ. On le sait parce que Paul cite l'évangile de Thomas dans 1 Corinthiens 2, 9. Et il dit, ainsi qu'il est écrit, et il cite un passage, mais voilà, ce passage ne se trouve pas dans les Écritures, à part dans l'évangile de Thomas. Donc, on sait que l'apôtre Paul aimait l'évangile de Thomas puisqu'il le cite comme une Écriture. Amen. Donc à nous de découvrir ce que signifient les choses étranges qu'on peut trouver dans cet évangile, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître étranges par rapport à notre petite idée évangélique que nous avons reçue. Je ne dis pas que c'est une... Non, faut pas que je dise une petite idée, mais disons que nous avons quand même... On nous a bien mis des barrières, hein, voilà, un peu sectaires. Il faut que nous ayons un esprit ouvert pour comprendre les choses. Et moi, je crois que cet évangile est inspiré, mais il faut avoir le courage, l'audace de la réflexion. On ne nous a pas tellement appris à réfléchir dans ces milieux-là. Moi, je veux que vous réfléchissiez, je veux que vous pensiez de vous-même, par vous-même, avec l'aide du Saint-Esprit, mais quand même de façon personnelle, vous. Alors, c'est drôle comment les choses arrivent, comment les choses se passent. J'étais dans mon bureau, je pensais à tout ça. Et vous savez, quand on fait travailler la mémoire... On lui donne un mot, c'est comme Google, vous savez, Google, vous lui donnez un mot, mouton, il va vous sortir plein de trucs sur les moutons, c'est comme ça, non? Ben là, notre mémoire, c'est un peu ça aussi, Google, n'est-ce pas? Vous savez que maintenant, en Suisse, on a le droit d'appeler les garçons Google. Voilà, on peut, c'est comme ça. Donc voilà, les choses sont dans la mémoire, mais elles ne bougent pas, si on ne les sollicite pas, elles ne bougent pas, elles restent là, elles attendent, elles ne bougent pas. Et dans les textes de Luc et de Matthieu qui parlent de la brebis perdue, c'est question de brebis. Et Thomas lui dit mouton. Déjà là, ça nous, on dit, ah, c'est plus une brebis, c'est un mouton. Ah oui, c'est vrai quand même que les brebis, ça fait partie de cette race-là, hein, mais enfin quand même. Voilà, donc c'est le mot mouton qui est employé par Thomas. Et j'étais dans mon bureau et je pensais, mouton, mouton, mouton. Dernièrement, il m'est revenu tout de suite à la pensée, puisque c'était la pensée la plus neuve. Dernièrement, je lisais la biographie de James Dean, Et là, il parle du fait qu'après avoir tourné le film Le Géant, son troisième grand film, il a eu envie de produire un film et il voulait produire le film de Petit Prince. Mouton, mouton, dessine-moi un mouton. Vous voyez, commençaient les associations d'idées. Hein? Donc, j'ai pensé à. Ça m'a amené à James Dean. Bon. Je lui ai dit, ça ne doit pas être une très bonne idée. Donc, on va fouiller encore. On va laisser monter le mouton. Mouton, mouton, mouton. Mouton de. Vous voyez, on a tous à peu près les mêmes références. Et pour ceux qui ne connaissent pas Panurge, c'est ce personnage. Ah, bonjour Christian, ça va bien? C'est bien, gloire à Dieu. Panurge, c'est ce personnage de Rabelais, vous savez, ce paillard cynique, poltron, mais qu'on aime bien parce qu'il nous fait tellement rire. C'est Panurge, Panurge. C'est le compagnon de Pantagruel. Et qui dit Panurge dit. Mouton. Il y en a deux qui suivent. Qui dit Panurge dit. Ah, c'est bien, il y en a trois maintenant. Mouton. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. C'était une fois un professeur qui. Parce qu'on dit professeur maintenant. Quand j'étais gamin, on disait un maître d'école. Maintenant, on dit professeur. Bien. Un maître d'école. Qui demande à un enfant, dans une leçon d'arithmétique, un berger a dit mouton. Et il y en a un qui saute la barrière. Combien reste-t-il de moutons? Et le gamin dit aucun. Il dit, attends, t'as pas bien compris la question, t'as pas bien compris le problème. Il y a 10 moutons, il y en a un qui s'en va, combien? Mais l'autre, il dit, il ne reste aucun. Il se met en colère. Il dit, mais non, monsieur, vous y connaissez en arithmétique, mais un mouton, je vois que vous y connaissez rien. S'il y en a un qui saute la barrière, tout le monde va suivre. C'est comme ça, les moutons. Mathieu nous dit que le berger, il a laissé les 99 autres. Alors moi, j'imaginais toujours qu'ils avaient laissé dans la bergerie. Et bien, j'ai regardé. Non. C'est dans la montagne. C'est dans la montagne. Et puis, si vous allez voir dans Luc, c'est plus une montagne, c'est un désert. Il les laisse dans le désert. Et je vous ai prêché le matin à 5h30 à la réunion de prière que Jésus a parlé à. Il a cité deux fois cette parabole en faisant des petites différences, des très grandes différences, parce qu'une fois il parlait avec des maîtres de la loi et une autre fois il parlait avec des disciples. Donc le message n'était pas le même. La parabole était sensiblement pareille, ce qui fait qu'on pense que c'est la même. Mais ce n'est pas la même. Et puis Thomas, c'est encore autre chose. Luc donc nous dit qu'il a laissé les 99 autres dans le désert. Thomas, il ne dit pas ça. Il ne dit pas où le berger a laissé les 99 autres brebis. Il ne dit pas. Alors voilà, les moutons. Les moutons, ils ont un esprit. C'est un peu comme au foot, comment voulez-vous? Ça ne peut pas être un sport très intelligent. Voilà certainement pourquoi j'aime le bodybuilding. C'est parce qu'au moins, on est tout seul à s'entraîner avec soi, contre soi. Les moutons, ils ont un esprit collectif. Hein? Et ils se conduisent comme une foule. Si un mouton saute la barrière, ben tous vont sauter la barrière. Mais en montagne, il n'y a pas de barrière. Et au désert non plus. Par contre, il y avait le berger. Il y avait le berger. Et il suivait le berger. C'était très bien. Sauf un qui n'avait pas un esprit collectif. Il avait un ego surdimensionné. Une grosse brebis, pardon, un gros mouton. Et voilà que lui, il n'a pas voulu suivre. Déjà, il était spécial. Un mouton, ça suit. Lui, il ne suit pas. Les 99 autres ont suivi le berger. Ils n'ont pas suivi le mouton, ils ont suivi le berger. Certainement qu'il y avait encore les chiens derrière et tout ça. Bon, le berger s'est arrangé justement avec les chiens, certainement pour pouvoir partir, pour aller chercher le mouton perdu. Il a laissé donc les 99 autres dans la montagne ou dans le désert, où vous voulez, à la Tour Eiffel, comme vous voulez. Il les a laissés, sans doute, comme je vous dis, avec les chiens. Jésus dit que Dieu ira toujours, quand il nous dit ça, toujours à la recherche du mouton perdu. Toujours. Il ira à la recherche de quoi? Du mouton perdu, pas des médiocres. Pas des mais du perdu, c'est-à-dire de celui qui a un ego énorme, cristallisé. C'est très différent. C'est très différent. Un autre jour, Jésus dira, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Des pauvres. Je ne me moque pas des pauvres, comprenez bien. Quand Jésus parle des pauvres, il ne parle pas des pauvres en franc CFA ou en francs ou en dollars ou en euros. Il ne parle pas de ça. Il parle de, bien que aussi, Mais il parle surtout des gens médiocres, des gens, des suiveurs, des gens qui ont ce mental collectif. Hein. L'homme moyen, la ménagère de 40 ans, l'homme tiède, quoi, le tiède qui finira par être vomi de sa bouche. Pas besoin de les chercher, c'est eux qui vous trouvent. Voilà ce que Jésus est en train de vous dire. Pas besoin de les chercher, c'est eux qui vous trouvent. Alors je méprise ni les pauvres, ni personne, mais Jésus n'est pas venu chercher une foule, mes frères et sœurs. Il n'est pas venu chercher une foule, mais des individus, des gens qui ont un ego surdimensionné. Le mouton perdu, c'était devenu un individu indépendant.
Oui, Michel, t'es un indépendant, t'es un franc-tireur.
Oui, farpètement. Farpètement. Celui-là seul qui est parvenu à avoir un ego si gros que le troupeau, bon, il ne voulait plus bêler avec. Les 99 autres sont dénués d'ego. C'est une foule. Frères et sœurs, considérez votre âme. Considérez votre être. L'âme, ça veut dire l'être. Êtes-vous une foule? Êtes-vous, ou est-ce que vous êtes un jour devenu un ego? C'est très important. Une personne un peu étrange, révoltée, spéciale. Si un jour vous êtes devenu un ego, c'est-à-dire une personne qui ne veut plus suivre le troupeau, alors c'est à ce moment-là que Dieu s'est mis à votre recherche. C'est là que Dieu se met à votre recherche. Parce que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de se mettre à la recherche de quelqu'un de spécial, de quelqu'un qui est différent. Vous devez être recherché. Vous devez être trouvé. Une personne qui n'est plus d'accord de marcher comme la foule, inévitablement va se perdre. Parce que Dieu s'occupe de la foule. Regardez la foule dans nos pays christianisés, ils ne sont pas chrétiens du tout, mais ils sont gardés quand même par la loi de Moïse. Je suis désolé, c'est comme ça, ils sont bien gardés. On appelle ça une civilisation judéo-chrétienne qui s'effrite de plus en plus, mais c'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous garde. Une personne qui en a marre d'être avec la foule se perd inévitablement. Mais au moins, il a déjà fait la moitié du chemin. En tant qu'individu. L'autre moitié, ça va être la soumission. On va y venir tout à l'heure. L'autre moitié peut désormais être rendue réelle par Dieu, grâce à Dieu. C'est vous seul qui pouvez faire la moitié du chemin, la moitié du cycle, c'est-à-dire de développer votre ego, de devenir une personne forte. L'autre moitié du chemin, l'autre moitié du cycle, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui va l'achever. Alors je résume. Un, vous naissez dans une foule. Jusqu'à 12 ans, selon l'ordre des Juifs dans la Bible, jusqu'à 12 ans, vous êtes là dans la foule. Puis, là, votre ego va commencer à se manifester, à grandir, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, pour beaucoup, la grande majorité, 99%, dira la Bible, 99% adoptent la religion de leurs parents, adoptent les traditions ancestrales, adoptent la coutume, les coutumes du coin. Même si le coin est grand, hein, ça peut être le Burkina Faso, c'est un grand coin, mais n'empêche, voilà, ils adoptent tous ça, puis ils croient que c'est vrai, voilà, c'est comme ça. On leur dit, la Vierge Marie est montée au ciel, ils croient que c'est vrai. Quand on va fouiller, on s'aperçoit que c'est seulement depuis 1950 que l'Église prêche ça officiellement. Mais bon, c'est comme ça. Le troupeau, le collectif, ça marche, ça suit. Surtout si les commerçants sont derrière pour le tondre. D'autres, donc, vont développer leur ego, donc, parce qu'ils ne veulent pas suivre le troupeau, ils ne veulent pas aller la religion de leur père, forcément, ou la tradition ancestrale, ils vont farfouiller ailleurs, vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et ils sautent par-dessus la barrière, ou simplement, ils refusent de bêler avec le troupeau, et ils se perdent. Ils se perdent. Les 99 autres, ne sont-ils pas perdus? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. Ils ne sont pas perdus, les autres? C'est pas à vous de juger. C'est pas à nous de juger. Si les protestants, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les darbistes, les mormons, les bouddhistes, les islamistes, les ceci, les cela et tout ça, les adorateurs du nombril, de la tige d'oignon, de tout ce que vous voulez, c'est pas à nous. Dieu les jugera avec justice selon ce qu'ils auront fait, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 13, et être jugé selon ce qu'on a fait ne veut pas dire être perdu. juste un peu plus loin, au verset 15, Apocalypse 20:15, il dit, si leur nom est dans le livre de vie, ils peuvent être sauvés. Vous allez me dire, c'est pas écrit comme ça. Je dis, non, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit que si leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ils sont perdus. Ce qui signifie que si leur nom était inscrit dans le livre de vie, ils sont
sauvés.
Voilà. Vous avez compris. Mais il faut être un gros mouton pour oser dire ça. Les autres, ils disent, ça rentre pas dans notre doctrine. Et voilà. Donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, on le sait. Les 99 ne seront sans doute pas dans le même endroit, entre guillemets, parce que c'est un monde d'esprit, donc il n'y a pas de gauche, droite et tout ça. Ils ne seront pas dans le même endroit que ceux qui auront été perdus, qui auront été retrouvés, qui auront été pris en charge sur les épaules de Jésus en personne, qui se seront soumis ensuite à Jésus. Certainement, on ne sera pas au même endroit. Maintenant, ce que Jésus veut, ce n'est pas votre esprit pauvre de foule. C'est pas ça qu'il veut. Ni il veut pas non plus votre individualité de sauteur de barrière. C'est pas ça qu'il veut. Il vous veut comme lui, c'est-à-dire universel. Il vous veut un. Comme lui. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Comme lui. À son image, à sa stature parfaite. Étant devenu comme lui. Voilà ce que Jésus veut. C'est pourquoi il vous cherche. C'est pourquoi il cherche cette sorte de gros mouton-là. Parce que déjà, il manifeste quelque chose. La foule, c'est commun. Et nous avons tous été de la foule. Membre d'une foule. Moi, j'étais membre de la foule des protestants suisses réformés du canton de Vaud. Et j'étais donc dans le troupeau des ouvriers, limite bourgeois, bon chic, bon genre, avec ma culture judéo-chrétienne, le respect du héroïsme de mes ancêtres protestants persécutés par l'Église catholique. Voilà, ça c'était mon troupeau, n'est-ce pas? Je m'identifiais à ces gens, j'étais là, voilà. Et Dieu bénit ça, Dieu bénit la Suisse. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir, Dieu bénit les États-Unis, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un certain troupeau, une certaine qualité de vie, une certaine conscience de vie, une certaine conscience de Dieu. Et d'autres troupeaux, le troupeau des Français, c'est différent déjà, c'est un peu râleur, etc. Les Suisses, non, pas vraiment. À part certains qui sont nés en Suisse, mais qui... à la frontière, voilà. Ou qui ont des parents qui ont... patibulaire, mais presque. Hein. Mais rien m'aurait fait changer de troupeau, hein. Ah non, je change pas de troupeau. Rien. Le péché m'a fait sortir de ce gentil troupeau-là, bien correct, pour que je fréquente un autre troupeau, un peu plus sordide. Et ça nous est tous arrivé, le péché. Dans les 12-13 ans, hein, c'est là que ça commence vraiment, quand on commence à devenir responsable devant Dieu, à cause de notre conscience. Mais, dans ce troupeau, un peu sordide, je me sentais quand même libre. Libre de quoi? Eh bien, libre de l'autre troupeau. Libre du troupeau où j'étais né. Mais en fait, j'étais toujours un individu, une personne seule, un gros mouton qui avait quitté le bon troupeau pour aller dans un mauvais troupeau, un troupeau moins bien, un troupeau d'esclaves. J'étais esclave de ce qui avait triomphé de moi. Vous savez, on dit les mœurs ont évolué. On a appelé les années 60-70 les années de la liberté sexuelle. Ben, c'est trompeur. En fait, j'étais bel an comme un gros mouton pris dans des ronces. Ce n'était pas la liberté. La liberté par rapport au troupeau que j'avais quitté. Mais j'étais perdu. Ce n'était pas le bon troupeau où je devais aller. Et puis voilà. Mais vous voulez que j'aille où? J'allais chercher un petit peu à gauche, à droite, dans toutes sortes de trucs. Mais j'avais aucun espoir. Je ne voyais rien d'extraordinaire. Il n'y avait rien qui était fabuleux, qui était extraordinaire. Et c'est là que Jésus finalement... est venu me chercher. Et c'était le 1er juin 68, il m'a trouvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a placé dans un troupeau. Ben oui, les moutons. J'étais quand même toujours un gros mouton. Et il m'a placé dans un troupeau, chez les pentecôtistes, Assemblée de Dieu. Il fait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour moi? Il n'y avait rien d'autre. C'était le best, c'était le meilleur, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Tout à fait la même chose 30 et quelques années après, ça a changé, 37 ans après. C'est plus les meilleurs. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'était le meilleur à l'époque, c'était exactement ce qu'il me fallait. Mais dans ce troupeau, j'ai vu qu'il y avait des moutons qui bêlaient en cœur. Hein. Et puis j'en ai vu qu'il y avait des autres qui cherchaient plus, et d'autres qui avaient même trouvé, qui avaient déjà sauté la barrière, qui étaient devenus ce qu'on appelait avec mépris des indépendants. Osborne fut le meilleur de ces gros moutons que j'ai rencontrés. Osborne, anticonformiste, même dans son allure, n'acceptant pas de bêler n'importe quoi avec tout le monde sous prétexte que c'est religieusement correct, un gros mouton spécial. Dieu alors aime le monde, c'est vrai, Dieu aime le monde. Dieu aime ses moutons, quand même, il les préfère. Et puis ensuite, dans ses moutons, il préfère les gros. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait juste quand même, ben, qu'est-ce que vous êtes pour juger Dieu? Jean, dans son troupeau de 12, était quand même encore le préféré, oui ou non? C'est à lui que Jésus a dicté le seul livre qu'il ait écrit, l'Apocalypse. On dit l'Apocalypse de Jean, mais c'est l'Apocalypse de Jésus. C'est à Jean qu'il l'a confié. Un gros mouton retrouvé. Un gros mouton retrouvé ne se perdra plus jamais. Parce que c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Jésus ne perd aucun des siens. Ça ne signifie pas qu'aucun gros mouton ne va jamais s'écarter un peu du droit chemin et faire des bêtises. Non! Ta houlette et ton bâton me rassurent, je suis bien content de temps en temps qu'ils me tapent, qu'ils me ramènent un peu, n'est-ce pas, qu'ils me cassent une jambe si je vais trop vite. Non! Dieu, ça ne veut pas dire que je suis incapable de m'égarer un peu. Mais j'aime trop Dieu. Je suis trop reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. J'ai l'amour pour le bon berger. Je ne suis pas simplement un suiveur. J'aime le bon berger. Et j'ai commencé à prendre part aux affaires de mon père. Je ne suis pas simplement une brebis. J'ai voulu aussi moi-même devenir quelqu'un qui prend part à l'œuvre du berger. Ah, ça c'est autre chose. Et puis Dieu m'aide à aimer, et Dieu vous aide à aimer le troupeau de gros moutons que vous fréquentez désormais. Mais de toute façon, on est des moutons. Même gros, on ne reste pas moins des moutons. Mais des moutons qui changeons, nous changeons. Nous devenons différents. Et je vais y venir tout à l'heure. Nous sommes des moutons, donc on n'aime pas bêler des âneries. Pour les ânes, c'est différent. Hein? Mais nous aimons pas ça, nous aimons le berger, nous aimons le troupeau du berger. Et Jésus a dit que 99 sont dans le désert. Et on pourrait penser, voilà, quand Jésus a repris la brebis, le mouton perdu, il l'a reconduit dans le désert. Eh bien, dans Luc 15:6, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit qu'il l'a conduit à la maison. Faveur. Une faveur. Le mouton perdu, il ne le ramène pas dans le troupeau, il l'amène à la maison. On passe de foule à individualité, perdition, et une fois retrouvé, on est en route sur les épaules de Jésus vers la maison. Maison. Vers la maison. C'est-à-dire vers l'universalité. Comme Dieu. Nous sommes en train de devenir comme Dieu. Son épouse divine. Dieu ne va épouser qu'une personnalité divine. En ce moment, la foule existe. Et ceux qui sont dans la foule n'ont pas de nom. Parce qu'ils n'ont pas mérité. Dans la foule, les gens n'ont pas de nom. Ils s'en fabriquent un. Protestant réformé de l'église, baptiste de la première église, pentecôtiste à bout filtre, tout ce que vous voulez, mennonite, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas de nom. Nous portons un nom. Je porte dans mon cœur Jésus-Christ le Seigneur, je porte son nom. Je suis fiancé, je porte son nom. Je vais devenir Madame Jésus. Je raconte une histoire. C'était l'histoire d'un colonel de l'armée. Pour vous montrer à quel point les gens n'ont pas de nom, mais ils ont des numéros. Et tout marche, n'est-ce pas, par la loi. La loi, les ordres. Hein, le frère Marc qui était à l'armée, l'obéissance, comme ça, un peu bête. Mais bon, il faut ça. C'est comme ça. Alors c'est un colonel qui rentrait tous les soirs chez lui et il dormait du côté gauche. Il aimait bien dormir du côté gauche, comme moi d'ailleurs. Mais quand il dormait du côté gauche, il ronflait, comme moi d'ailleurs. J'ai demandé à Dominique si Stéphane ronflait. Il m'a dit non. Je demandais à Stéphane, est-ce que Dominique ronfle? Il m'a dit non, ça va alors, c'est bien. C'est terrible quand il y a quelqu'un qui ronfle dans la chambre. Il ronflait du côté gauche, mais quand il était du côté droit, il ne ronflait pas. Alors sa femme essayait bien de le tourner du côté droit pour qu'il ne ronflasse pas. Mais il était très lourd et puis il se débattait et revenait toujours sur le côté gauche. Sa femme était épuisée, passait des nuits blanches épouvantables. Un jour, elle est allée trouver un psy pour lui dire « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Alors il lui a dit « Eh bien écoutez, c'est un militaire, donnez-lui un ordre. » Quand il est sur le côté gauche et qu'il ronfle, vous dites « Demi-tour, droite !» Et ça a marché. J'ai lu ça. Ça a marché. J'ai lu cette histoire. C'est authentique. Demi-tour, droit. Voilà. Et il ne ronflait plus. Les ordres sont les ordres. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans ce monde, n'est-ce pas? Ils demandent de la sécurité. Ils vont l'avoir au prix exorbitant de leur liberté. Et la discipline, on appelle ça l'ordre mondial. L'ordre, l'ordre. L'antichrist est en train de se mettre en place. L'ordre. Le monde est en passe de devenir une moutonnière, une foule moutonnière. Alors, est-ce que vous êtes conscient par vous-même, Alors, vous allez me dire que oui, vous êtes un vendeur, vous êtes un chômeur, vous êtes un libraire, vous êtes un conducteur de bus, vous êtes un protestant, vous êtes un musulman, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes... Mais est-ce que vous êtes un homme? Alors, les femmes, même les femmes. Hein. Jésus était un homme. Il n'appartenait à rien. Vous savez, dans les églises, les gens, ils ne cessent de prier, ils prient, ils prient. Mais Dieu n'est pas à leur recherche. Voilà pourquoi ils ne le trouvent pas. C'est Dieu qui cherche, pas nous. Ceux qui disent qu'ils cherchent Dieu, ils se trompent eux-mêmes, c'est pas vrai. Personne ne cherche Dieu, dit la Bible. Personne, pas un seul. Personne ne cherche Dieu. Quand on dit qu'on cherche Dieu, on cherche avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec des mots, avec des théories, avec des attitudes qui ne veulent rien dire, qui ne servent à rien. Beaucoup croient avoir trouvé Dieu, mais en fait, ils ont trouvé certaines choses qui concernent Dieu, puis avec ça, hop, ils ont fabriqué une petite religion, un isme de plus. Faites confiance à la religion. Suivez le troupeau des religieux, c'est bien. C'est les seuls qui ont réussi à mettre Jésus en colère. Un jour, il y avait un prêtre qui est arrivé à Abidjan. Il arrive à l'aéroport. Voilà, ceux qui connaissent Abidjan, l'aéroport. Et puis, il devait aller prêcher dans une certaine église, mais il ne connaissait pas, il ne savait pas comment faire. Et il voit un gamin, il dit, « Dis donc, tu ne pourrais pas me dire où est l'église Saint-Bigoudi-Machin ?» Et le petit garçon lui dit, « Oui, je vais t'amener, je vais t'amener. » Alors, il le conduit et il l'amène juste devant l'église. Et le prêtre est très reconnaissant, il lui dit, « C'est formidable, je t'ai demandé où était l'église, mais tu ne m'as pas seulement dit où elle était, mais tu m'y as accompagné. Tu es vraiment un garçon très très bien. Formidable. Alors je vais te faire un cadeau. Entre avec moi, et moi dedans, là, eh bien, je vais te montrer le chemin pour trouver Dieu. » Et le petit garçon, il a éclaté de rire, il a dit, « Tu n'es même pas capable de trouver le chemin de l'église, et tu veux me montrer le chemin du divin ? Je ne viendrai pas avec toi. » Allez, ça c'est un gros mouton. Un gros mouton. Il réfléchit. Alors je vous dis, même si vous connaissez le chemin de l'église, ça ne fait aucune différence, parce que de toute façon, Dieu n'est pas là-dedans. Alors voilà. C'est des trucs d'hommes, ça. Montés par les hommes. Vous ne pouvez pas chercher Dieu parce que vous ne le connaissez pas. On ne peut pas trouver quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas Dieu. Si on le connaît, alors on peut. Là, en ce moment, on le connaît, alors on cherche à lui plaire, on cherche à le connaître mieux, pour l'aimer mieux. Mais avant de le connaître, on ne le connaît pas, on ne peut pas trouver, on ne peut pas chercher. Ça ne monte même pas à notre idée. On a conscience d'un vide, mais on ne sait pas comment il est, qui il est, comment, non. Par contre, lui, il vous cherche, parce qu'il vous connaît. Se perdre. J'espère que ce n'est pas trop confus ce que je vous dis là, ça va? Ça suit? Se perdre. Nous avons tous été perdus sur cette terre. Dieu nous y a perdus. Ça, c'est une chose. Mais vous devez vous perdre aussi. C'est-à-dire sortir de la foule. Se perdre. Vous perdre, vous-même. Sortir du champ défini par la loi, par la société, par les groupes, machin, patin, couffin. Sortir au-delà. Au-delà de ça, il y a une étendue qui est sauvage. Et puis au-delà de cette étendue sauvage, ben, il existe l'immensité de Dieu. Vous savez, la société... C'est qu'une clairière dans la forêt. Aujourd'hui, elle est là, demain, elle n'est plus là. Il y a des sociétés qui sont complètement écroulées, des grandes sociétés. Dans le Paris Match, c'est écroulé. Non, pas Paris Match, François, une grande société, un grand troupeau. Mais c'est pas réel, tout ça, ça a été créé par l'homme. Ça a un début, ça aura une fin. Dans 2 Pierre 1,5, il nous est dit d'ajouter la vertu à la foi. Je vous dis que quand vous sortez de la foule, vous vous perdez parce que vous entrez dans une étendue sauvage où il n'y a ni règle, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, chacun fait ce qu'il veut. Et la Bible nous dit qu'il faut rajouter la vertu à la foi. Alors une fois que vous avez rencontré Jésus, quand vous êtes perdu, vous rencontrez Jésus, vous avez été trouvé par lui, vous avez la foi, et à cette foi-là, vous devez ajouter la vertu. Et la vertu, ce n'est pas le bien. Non. Le mot vertu vient d'un mot latin qui signifie viril, fort. Vous devez rajouter ça à la foi. Déjà que vous êtes un gros mouton perdu, retrouvé, maintenant vous devez être un gros mouton retrouvé, mais fort. Pas un mouton bêlant. Maintenant que vous avez été trouvé par Jésus, soyez fort. Affirmez ce que vous êtes. Ne tombez pas victime de la foule bêlante, si évangélique puisse-t-elle être. Que Dieu me pardonne si je me trompe. Je ne crois pas me tromper du tout. Je ne crois pas me tromper du tout. Commencez à penser à vous en Christ. À vous en Christ. Qui suis-je en Jésus-Christ? Quel est mon talent? Qu'est-ce que je peux faire? Et marcher avec Jésus. Pas tout seul. Vous êtes dans le troupeau. Mais vous n'êtes pas bêlant. Dites pas Amen. Amen. Tout le temps. Vous voyez, 99 moutons peuvent être abandonnés dans la montagne ou dans le désert sans aucun problème, sans aucune crainte pour eux. Ils ne se perdront pas. Ils sont serrés les uns contre les autres. On peut les retrouver quand on veut. Il n'y a pas de problème. C'est des moutons bêlants, sans aucune initiative, rien. On peut les retrouver quand on veut. C'est pas ces moutons-là qui font le problème. C'est l'unique, le meilleur, le plus gros qui a quitté le troupeau. C'est celui-là qui vaut la peine qu'on se dérange. Soyez celui pour qui Jésus va se déranger. Quand un mouton peut quitter le troupeau, c'est qu'il y a là de la force, il y a quelque chose. Il est intrépide. Il a un ego surdéveloppé. Il se perd. Et ça, c'est le premier pas vers le salut. Et quand vous êtes retrouvé, alors il y a autre chose que vous allez commencer à manifester. Parce que certains disent, oh non, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la manifestation de notre ego qui est le premier pas vers notre salut. Excusez-moi, avant d'être sauvé, il faut d'abord être perdu. Donc le premier pas pour être sauvé, c'est d'être perdu. Il faut appeler un chat, et voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas l'humilité, c'est faux. Si quelqu'un est humble sans avoir un surego, son humilité est sans valeur. C'est comme ceux qui aiment rendre service et ceux qui sont serviles. Leur servilité n'a pas la même valeur que le service de quelqu'un qui aime. C'est autre chose. Vous voyez? Voilà ce qui est la différence entre l'humilité du faible et l'humilité du fort. L'humilité du fort va toujours passer pour de l'orgueil aux yeux des faibles, aux yeux des moutons bêlants. Ils ne comprennent pas. Votre ego va faire de vous un être tranchant comme une épée. C'est ce que Jésus est. Votre ego fera de vous un être précis, spécial, égaré, sans doute, c'est vrai. Mais ensuite, vous allez pouvoir laisser tomber ça. Mais vous ne pouvez le laisser tomber que quand vous l'avez. Vous ne pouvez pas le laisser tomber sans l'avoir. Cet ego démesuré, tranchant comme une épée qui sert à faire plus de mal que de bien. Alors vient l'humilité. C'est seulement là que vient l'humilité. L'humilité du fort, du gros mouton. Moïse, c'était un gros mouton. Il avait appris beaucoup de choses dans le troupeau égyptien. Et puis il a quitté le troupeau. Il s'est rebellé, il a dit, c'est pas juste, tout ça, voilà. Il a tué un égyptien, mort. Après, il s'est taillé. Puis c'est là que Dieu l'a trouvé au buisson ardent. C'était un gros mouton. Dieu l'a cherché dans le désert. Et non, fit le gros mouton Moïse que nous connaissons, qui a changé le monde. Jacob, la même chose, un gros mouton. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ce qu'il a fait Jacob avec son ego? Pas du tout, pas du tout. Mais au moins, il a fait quelque chose. Et on ne parlerait même pas de lui, il n'aurait pas de nom. Mais même son nom n'était pas suffisant. Dieu a changé son nom. Il appelle Israël, David, la même chose. Paul, la même chose. Il faisait partie du troupeau des pharisiens, voilà, la meilleure secte du coin. Frères et sœurs, Dieu atteint ce qu'il veut pour en faire ce qu'il veut. Écoutez Paul qui dit, le jugement des autres sur moi, bof. Regardez Pierre, suivant le troupeau des douze pourtant. Puis ensuite il change de troupeau, il suit le troupeau qui a arrêté Jésus, mais il suit de loin, mais il le suit quand même, mais de loin. Et puis Pierre se perd. Il renie. Et puis, Jésus le retrouve sur une plage, vous voyez, n'importe où. Le buisson ardent, sur une plage, assis sur un cheval comme Paul, n'importe où. Mais Dieu vous retrouvera toujours là où vous êtes. Dieu le retrouve, Jésus le retrouve. Il trouve toujours ce qu'il cherche. Le frère qui nous a quittés dernièrement a eu raison de quitter le troupeau que nous sommes. Il a eu raison, c'est une bonne chose pour lui. Son ego est arrivé à son paroxysme, il s'est cristallisé. C'est une bonne chose. Souvenez-vous, pour venir dans le troupeau que nous sommes, il a abandonné certains trucs. Il a abandonné ça. Mais c'est certainement la seule chose qu'il a abandonnée. Il n'a pas compris où il était avec nous. Il a toujours vécu seul, perdu au milieu de nous, mais seul. Sans soumission, sans humilité, toujours raison, toujours raison. Alors c'est une bonne chose qu'il soit parti. C'est une bonne chose pour lui, parce que Jésus va aller le chercher dans les ronces où il est en train de se mettre. Parce qu'il n'avait pas conscience de qui nous sommes, que Dieu l'avait placé dans ce troupeau-là. Il n'avait pas conscience de qui nous sommes. Alors nous, nous sommes placés où Dieu nous a placés, mais il faut que vous ayez conscience de la valeur du troupeau dans lequel Dieu vous a placé. Y êtes-vous avec un esprit de foule, ou est-ce que vous y êtes comme une pierre vivante comme dans l'édifice? Une pierre vivante, elle s'allie à la pierre d'angle. Jésus est une pierre dans cet édifice. Et nous sommes liés à cette pierre d'angle par le ciment de l'amour, les uns aux autres. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas un troupeau de moutons. Vous pouvez être un mouton, ça serait vraiment dommage. Mais à partir du moment où Jésus nous fait rentrer, non pas dans le troupeau, mais dans la maison, vous vous rappelez? Dans la maison, nous devenons une pierre vivante de cette maison. Nous avons été changés de moutons en pierre vivante, c'est ça la véritable alchimie. C'est pas de changer le plomb en or, ça n'a jamais été possible. Mais nous étions un gros mouton en plomb, et puis Jésus a fait de nous de l'or. Vous comprenez? Une pierre précieuse dans sa maison. Nous sommes de nouvelles créatures, des pierres vivantes assemblées pour former le corps de Christ, agissant ensemble sur la terre. En tant que membre du corps de Christ. Alors agissez en tant que pierre vivante, unie aux autres, justement avec ce ciment de l'amour, pour former le corps de Christ. Mais n'agissez pas comme des moutons bêlants, sans initiative, sans couleur, sans odeur, sans saveur, ou avec, parce qu'on peut toujours dire sans, mais on peut dire aussi avec hésitation, avec murmure, avec médisance, avec révolte, avec j'en ai marre. Faites valoir vos talents. J'ai marqué avec vertu, mais j'ai tellement bien écrit qu'on dirait que c'est écrit avec Vartan. Faites valoir vos talents avec vertu, c'est-à-dire avec force, avec virilité. Si vous n'avez pas conscience de cela, mes frères et sœurs, vous regarderez toujours ailleurs, vous demandant si ailleurs l'herbe n'est pas plus verte. Et c'est ce que ce frère a fait. Il est allé voir ailleurs, il a trouvé une belle liane. Parce qu'il n'avait pas conscience de son importance avec nous. Il n'arrivait pas. Il était brouté ailleurs. Mais c'est bien. C'est bien pour lui. Ne vivez pas par habitude votre vie communautaire. Vous êtes ici de passage. C'est très court. Ça vous semble long? C'est très court. Hier, j'étais assis dans le fauteuil, je disais, au moins, de toute façon, dans 20 ans, c'est fini. Hein. Si Jésus est parvenu, de toute façon, je serais mort. Dans 20 ans, alors, peut-être pas, hein. Mais enfin, bon, j'espère. Parce que je trouve que c'est pas rigolo, ici-bas, sur cette terre, quand on a conscience de ce qui se passe. Mais c'est une horreur, on peut pas vivre tranquille, on peut pas vivre... C'est pas possible. Je disais, mais dans 20 ans, mais c'est court, 20 ans. Vous vous rendez compte, ça fait combien, 16 ans qu'on est déjà au château? Ça a passé comme ça. C'est rien, 20 ans, rien du tout. Alors, vous êtes ici-bas, on est ici-bas de passage, vers l'universalité, voilà où nous sommes en chemin, vers l'université, pour devenir comme Christ, pour devenir omniprésent, omniscient, omnipotent, pour être son épouse, pour agir avec lui à ses côtés, un être divin. Voilà ce que nous sommes en passe de devenir. On était d'abord perdu dans la foule, on s'est révolté, on est sorti de la foule, on était perdu, on était retrouvé, maintenant on était placé dans la maison comme pierre vivante et nous sommes en train de devenir semblables à lui. Alors tenez bon, frères et sœurs, tenez bon. Pour cela, laissez-vous renouveler par le Saint-Esprit d'amour. Je dis bien le Saint-Esprit d'amour, pas par l'amour béat et dégoulinant de bons sentiments. L'amour divin. L'amour divin qui nous permet d'aimer même nos ennemis. Pierre vivante. Pierre vivante ! Ne te laisse pas effriter par les réalités du quotidien. Souviens-toi que tu es éternel. Amen. Merci Jésus pour cette prédication que tu m'as inspirée. Merci Seigneur de m'avoir aidé à la prêcher. Merci pour mes frères et sœurs qui l'ont écoutée avec amour, avec attention. Je te demande mon Dieu de les aider à bien prendre conscience de ces étapes dans la vie, de ce que nous étions, de ce que nous sommes devenus et de ce que nous devons être. Merci Seigneur Jésus de nous aider à bien comprendre ces choses, à voir ces points bien précis devant nous, afin de ne pas nous détourner du grand but qui est l'enlèvement. Merci Seigneur parce qu'après cet enlèvement, nous sortirons de ce système créé et nous serons dans cette universalité avec toi, ton épouse, un être divin, différent. Différent de tout ce que nous pouvons même imaginer. Nous ne cherchons même pas exactement ce que cela sera. Toi seul le sais. Et c'est toi qui nous cherches pour nous mener là. Et je te remercie parce que tu as soulevé un peu le voile pour que nous puissions mieux comprendre, afin que nous ne lassions pas en chemin, mais que nous ayons toujours ce grand but devant nos yeux et dans nos cœurs. Merci Seigneur de nous renouveler par ton Saint-Esprit ce matin, alors que nous élevons nos voix les uns avec les autres pour te louer, pour t'adorer, non pas pour bêler ensemble, mais pour te louer conscient de ton amour, conscient de ta bonté envers nous. Merci Seigneur Jésus de t'être dérangé pour venir nous chercher. Merci Jésus. Merci Seigneur, on est à l'aise sur tes épaules. Merci Seigneur, parce que tu nous as pris en charge, tu nous conduis, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne perds pas tes gros moutons. Merci Jésus, parce que tu nous aimes d'un amour merveilleux et nous en sommes conscients. Nous, permets que nous en soyons encore plus conscients, afin que les détails de la vie ne viennent pas gâcher une seule de nos journées, parce qu'elles ont une valeur, ces journées. Elles ont une valeur. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. L'amour en tout ce que tu fais, réjouis-toi et sois fidèle. Mais de l'amour en tout ce que tu fais, et tu seras comblé. À donner qu'à recevoir, joyeux et souriant, c'est la vie avec Dieu. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir, joyeux et souriant, à chaque instant. Mais de l'amour dans tout ce que tu fais, réjouis-toi et sois fidèle. Mais de l'amour dans tout ce que tu fais, et tu seras comblé. Mais de l'amour ce que louer le
Seigneur, adorez-le avec vos mots. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Élevez vos cœurs devant Dieu. Regardez-vous dans cette construction que Dieu a commencée il y a 2 millénaires, cette église. Vous êtes là. Vous êtes là, quelque chose, une pierre nouvelle. Il y a peu de temps que vous y êtes, mais vous y êtes. Oh, en dessous de vous, d'autres pierres. Il y a d'autres pierres, elles sont toujours vivantes. Oh, on cite leur nom, on les connaît. D'autres, on les connaît moins, mais elles sont bien là. Ce sont des pierres vivantes. Cet édifice s'est élevé. Oh, louange à toi, Jésus. C'est ton église. C'est toi qui l'as construit avec les moutons que tu es allé chercher toi-même. Il y aura d'autres personnes qui seront sauvées, mais qui seront appelées amis de l'épouse. Amis de l'époux. Oh, gloire à ton nom. Merci, Seigneur, pour ces gens-là aussi qui sont sauvés. Merci, Seigneur. Tu les aimes. Tu aimes chacune de tes brebis. Merci, Jésus.
Amen, alléluia.
Mets de l'amour dans tout ce que tu fais, et tu seras comblé.
Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Joyeux et souriant, c'est la vie avec Dieu. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Joyeux et souriant à chaque instant. L'amour dans tout ce que tu fais, et jouis-toi, et sois fidèle. Amen. Que l'amour dans tout ce que tu fais, et tu seras comblé.
Amen. Élevez vos voix comme un doux murmure devant le Seigneur, tous ensemble et loués.
À tous, bonjour. J'ai appris que c'était un jour spécial. Aujourd'hui, dimanche, pour au moins 2 de nos sœurs. Et je voudrais, en ce jour spécial, leur souhaiter, du côté de ma famille, à mamie, un joyeux anniversaire, mamie. Et du côté de la maison, dire à Marie-Claire aussi un joyeux anniversaire. Particulièrement pour mamie, parce que mamie, c'est ma belle maman à moi. Et ma belle maman à moi, je voudrais qu'elle soit honorée ce jour de ses 70 ans, parce que c'est une femme à mes yeux qui est absolument fantastique, un cadeau de Dieu qui m'a été fait. Et en cela, je voulais te remercier et te souhaiter encore du plus profond de mon cœur un joyeux anniversaire, mamie.